France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Sacco qu'on a retrouvé et qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Bonjour Maurice.
Bonjour Carly.
De quoi allez-vous nous parler tout à l'heure?
Parler de Dibisogo. Qu'est-ce que c'est? Je le dirai plus tard.
Exactement. Mais bon, disons, on peut dire que c'est un plat de viande d'agneau, de mouton ou de brebis qui pourrait intéresser notre invitée éleveuse de brebis. Elle a choisi d'effectuer un retour à la terre avec son compagnon et témoigne de son quotidien et du sens de son travail dans un petit livre de poésie brute passé sous les radars et qui pourtant ne peut laisser indifférent. À l'heure où il est beaucoup question du malheur des paysans français, de la souffrance des bêtes et de l'avenir de notre modèle agricole, il nous a paru bon d'entendre ce qu'a à nous dire cette éleveuse à Laussonne en Haute-Loire. Bonjour Elsa Sagnal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et pour discuter avec vous, un jeune journaliste dont l'enquête a permis de révéler un modèle dont nous, à l'autre bout de la chaîne, n'avons pas idée. Ulysse Thévenon, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci à vous d'être là. Ce livre s'intitule « Le sens du bétail ». Il a paru aux éditions Flammarion en 2025. Il a reçu à l'automne le prix du livre engagé du Festival de Périgueux. Et c'est une plongée au cœur de l'industrie de l'élevage français. C'est une enquête qui vous a mené pendant 2 ans auprès de 250 témoins, dont une centaine d'éleveurs. Et nous allons bien entendu y revenir.
L'hiver, les brebis bougent à peine lorsque je pousse la porte de la bergerie. Certaines commencent à se lever et s'étirent. Au bruit du couvercle du seau de grain que je dévisse, les mouvements s'accélèrent et les bêlements me pressent. Remplir 2 seaux, mélanger orge et métaille. La bergerie est trop petite, les mangeoires sont dehors. Porter ces seaux dans la neige de la nuit, échapper un peu de grain sur le trajet, espérer que les oiseaux le trouvent, vider la neige des mangeoires pour les remplir de grain. Mes mouvements, observés de près à travers un petit jour, entre 2 planches de bardage, émeutent à la porte de la bergerie au son du grain qui tombe dans les mangeoires. Ouvrir la porte en ne restant surtout pas sur le passage, regarder les brebis s'apprêter à se ruer dehors, puis s'arrêter, surprises par la neige, et reprendre leur course. Pendant la ruée sur le grain, vider les râteliers du refus de la nuit, pailler la litière, inviter Katchok à faire le tour des mangeoires pour ramener les brebis à l'intérieur. Tâche gratifiante pour ce vieux chien. Utile pour moi dans le matin embrumé, apprécier le silence qui s'installe pour le reste de la journée, remplir les râteliers de foin, et pensez à l'été.
Voilà, vous êtes bien dans les bonnes choses. On entre dans l'émission avec un extrait du livre de notre invitée Elsa Sagnal. Ce livre s'intitule « Élevé » et il a apparu aux éditions Saüs Saüs. Elsa Sagnal, ça dit bien ce que vous faites en ce moment, puisque ce livre est au rythme des saisons. Là, c'est une journée type en hiver, je crois d'ailleurs que vous êtes installé dans une pièce d'où la vue est une vue sur des paysages enneigés. Donc en ce moment, où sont vos brebis?
Alors effectivement, en ce moment, les brebis sont dans la bergerie, bien au chaud et le paysage est tout à fait enneigé tout autour. Donc c'est une période de l'année où les brebis restent à l'intérieur et mangent le foin qu'on a récolté au mois de juin.
Des brebis qui vont pâturer sur les hauteurs. Vous êtes en Haute-Loire. Elles mangent de l'herbe fraîche. Vous dites dans Élevé, faire manger de l'herbe à nos bêtes, évidence et défi.
Tout à fait. En fait, quand on s'est installé avec mon compagnon, pour nous, une brebis, c'est un ruminant, ça se nourrit d'herbe. Et donc, il n'y avait pas de questions à se poser sur la façon dont on allait nourrir nos bêtes. Et puis on s'est rendu compte petit à petit que dans énormément de systèmes de production animale, les ruminants, notamment les jeunes, les agneaux, restent à l'intérieur et sont nourris à l'aliment, au foin, et finalement ne consomment pas d'herbe durant toute leur vie. Et donc, on s'est rendu compte, sans le savoir, qu'on était assez à rebours des pratiques conventionnelles, en tout cas autour de chez nous, en cherchant à faire manger de l'herbe à nos brebis. Donc, évidence, mais aussi défi, parce que il y a tout un tas d'enjeux autour de du pâturage qu'on mesure pas forcément et qui explique pourquoi beaucoup d'éleveurs ne font pas pâturer les jeunes. Notamment, il y a la contamination par des parasites qui sont dans l'herbe et qui empêchent les agneaux de grandir correctement. Il y a toute une gestion de la croissance végétative, un calendrier de pâturage à respecter, etc. Donc une complexité du vivant à embrasser pour pouvoir faire manger de l'herbe à nos bêtes.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, Elsa Sagnal, vous qui étiez géographe de formation, consultante de métier pendant un temps, de vous installer comme éleveuse avec votre compagnon? Même si vous vous occupiez déjà de questions agricoles, vous n'aviez pas les mains dans la terre comme vous l'avez aujourd'hui et le rapport à vos bêtes.
Effectivement, j'ai travaillé sur des questions agricoles lorsque j'étais géographe. Et c'est toujours difficile de savoir pourquoi on fait tel ou tel choix dans la vie, mais je pense que je tournais autour des questions agricoles puisque je menais des enquêtes auprès de paysans en Côte d'Ivoire. Et à force de m'intéresser à ces questions, je me suis rendu compte que j'étais plus attirée par la pratique, que j'avais envie d'être paysanne et pas d'être seulement dans un métadiscours sur ce mode de vie.
Et voilà pourquoi vous vous êtes installé avec votre compagnon donc en Haute-Loire et pourquoi vous aujourd'hui vous élevez 120 brebis. Alors il y a des brebis mérinos d'Arles, des brebis tonnes ou tonnes, on dit tonnes, tonnes et martonnes.
Tonnes et martonnes.
Vous recueillez la laine, Elsa Sagnal, de ces brebis, vous cueillez la viande d'agneau. C'est quoi cueillir la viande d'agneau?
Donc c'est une expression que j'ai utilisé dans le livre. En fait, on est avec mon compagnon éleveur de brebis allaitantes, comme on dit dans le jargon. Donc, ce sont des brebis qui vont nourrir leurs agneaux jusqu'au sevrage. Et on ne prélève pas le lait pour faire du fromage. Et donc, in fine, on produit de la viande d'agneau. Sauf que lorsqu'on s'est installé, on voyait notre métier comme quelque chose de beaucoup plus complexe que de seulement produire de la viande. On est plutôt un agent dans un écosystème interspécifique entre les brebis, la végétation, le chien, nous. Et comme ça, on façonne des paysages, on entretient des milieux. Et donc on voyait plus là le sens de notre métier que dans la seule fonction productive. Et finalement, l'action de venir prélever des agneaux dans le troupeau qui vit sa vie tout au long du cycle de l'année me semblait être plus proche de la cueillette. Et donc c'est un peu ce paradoxe entre la cueillette qui est plutôt associée aux végétaux et puis... et la production de viande d'agneau.
Ce qui fait que vous vous sentez quand même un peu à part, hein. Vous écrivez que vous êtes bien loin des récits paysans de vos ancêtres et bien loin de ce que vivent vos voisins éleveurs. Vous témoignez, cela dit, Elsa Sagnal, aussi dans ce livre, de la difficulté que c'est d'être éleveur aujourd'hui. C'est un pari, c'est un combat. Vous témoignez en particulier de politiques publiques absurdes, du poids de la paperasse, beaucoup de contradictions, de complexités administratives, des situations, des injonctions. Il y a des chiffres, des tableaux Excel, des acronymes, des pourcentages. D'ailleurs, nous, quand on lit ça, on n'y comprend rien, mais Louis Thévenon a plongé dedans avec l'enquête qu'il a menée. Ça, c'est aussi le quotidien. Et est-ce que ça fait partie du sens de l'éleveuse que vous êtes, Elsa Sagnal?
Donc, c'est sûr qu'on entre, bien qu'on soit dans des systèmes de production alternatifs, on entre dans la grande machinerie de la politique agricole commune. On est dépendant des subventions comme nos collègues conventionnels. Et donc, on doit se frotter à cette bureaucratie complètement incroyable qui touche l'agriculture aujourd'hui. Et je pense que ça a été d'autant plus marquant pour moi que j'ai dû utiliser des compétences que j'avais apprises à l'université en géographie jusqu'en master pour remplir une déclaration PAC. Et donc, je ne comprends pas comment la majeure partie des agriculteurs, agricultrices français, sans avoir fait ces études-là, peuvent remplir eux-mêmes leur déclaration PAC. Et c'est pour ça que la plupart des agriculteurs font faire ces déclarations. Et il y a une forme de dépossession parce que c'est ces subventions-là qui les font vivre et ils ne peuvent même pas... tout seul comprendre la complexité des règles et faire les démarches. Donc quand on est là-dedans, on perd le sens de notre métier, mais heureusement, on a quand même une grande marge de liberté par rapport à ces contraintes administratives, parce que on est quand même des pilotes sur nos fermes. Quand on est au fond d'un champ, on a beau être suivi par satellite tous les 3 jours, c'est quand même difficile de savoir exactement tout ce qui se passe sur une ferme. Et donc, on a quand même une grande marge de liberté et de créativité dans la façon de conduire nos troupeaux et nos prairies.
Ulysse Thévenon, quand vous entendez Elsa Sagnal parler de son travail, de son quotidien, et on va parler du rapport aux bêtes dans un instant, mais et de ce sentiment parfois de dépossession du sens de son travail, quelle place occupe-t-elle selon vous dans l'enquête que vous avez menée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous semble complètement à part, hein, par rapport aux gens que vous avez rencontrés, ou justement non, quand même quelqu'un qui se bat pour retrouver le sens?
Oui, ben ils sont nombreux à chercher du sens dans ce qu'ils font, à rechercher du sens dans ce qu'ils font. Mais effectivement, moi, ce qui m'a vraiment agrippé quand j'ai commencé cette enquête, ce sont plutôt les éleveurs qui sont dans une course de Formule 1, pas du tout dans ce qu'on vient d'entendre avec Elsa. Beaucoup sont en intégration. Qu'est-ce que c'est l'intégration? En fait, en tant qu'éleveur, vous n'êtes plus que prestataire de service. On vous livre les animaux à élever, on vous livre les aliments qu'il faut leur donner, on vous fait acheter des bâtiments, du matériel, des produits d'hygiène, et il y a un technicien qui vient vous rendre visite toutes les semaines, soi-disant pour vérifier que tout se passe bien, vous donner des conseils, mais en réalité, c'est plutôt pour vous surveiller, vous donner des ordres et vous faire acheter plus de produits. Là, je parle d'éleveurs de poulets ou de cochons qui sont dans des grandes coopératives ou en lien avec des agro-industriels. Et ça m'a vraiment marqué. J'avais l'image du chef d'exploitation, comme on dit, de quelqu'un qui est maître chez lui, et dans un certain nombre de cas, surtout dans l'élevage intensif des deux filières que j'ai citées, c'est vraiment pas du tout le cas, et ça m'a vraiment marqué, parce que ces éleveurs se retrouvent déjà esclaves de leur passion, ils ne se voient rien faire d'autre de leur vie, donc ils continuent, même s'ils sont venus à détester leur métier pour certains, et c'est pour ça qu'on assiste malheureusement à beaucoup de suicides. Quand vous préférez vous donner la mort que mettre fin à votre entreprise, ça montre bien qu'il y a quelque chose en vous de viscéral, qui vous tient quand même, malgré tout, à ce que vous faites. Ils sont devenus, et ça je l'ai découvert, esclaves de leurs partenaires également. Donc ça, je les liste pas à pas. Je remonte toute la filière dans mon enquête, en passant des abattoirs, les banques, les coopératives, les supermarchés, etc., etc.
Oui, effectivement, en plus aujourd'hui, avec ce qu'on entend beaucoup, puisque c'est la goutte d'eau ou les gouttes d'eau qui font déborder le vase, hein, à la fois la signature de l'accord du Mercosur et puis la DNC, les ovins, Elsa Sagnal, ne sont pas tellement concernés par l'accord du Mercosur, d'un côté, ni par la dermatose nodulaire contagieuse, mais vous avez des voisins, et d'ailleurs, dont vous dites que vous êtes un peu différente de vos voisins. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, Elsa Sagnal, en ce moment?
Eh ben, on est dans une région où il y a majoritairement l'élevage bovin, donc la DNC, on en entend beaucoup parler. Il y a des mobilisations encore aujourd'hui, des barrages filtrants auxquels on va participer aussi en soutien, parce que on est tout autant choqués par la politique sanitaire, même si on n'est pas en bovin. On sait qu'un jour, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver. On a été frappés l'an dernier par la fièvre catarrhale ovine, une épidémie là, qui s'est répandue sur une grande partie du territoire et qui a décimé des troupeaux de brebis. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est ni à l'abri des épidémies qui sont favorisées par le changement climatique, ni à l'abri de politiques sanitaires très violente pour les éleveurs et qui vise surtout à préserver la réputation du marché français à l'international pour pouvoir continuer à exporter nos animaux et notamment ceux produits par des filières en intégration comme le cité Ulysse Thévenon. Ces filières, elles existent aussi, par exemple, pour l'engraissement de jeunes veaux qui sont nés dans des élevages laitiers, puis qui sont séparés de leur mère et ensuite engraissés en hors-sol dans d'autres fermes avec une destination d'export.
Vous faites de la viande, oui, Elsa Sagnal, mais ce que vous avez vu, Ulysse Thévenon, dans votre enquête, si on reste sur les ovins, par exemple, est-ce que c'est pire avec les élevages de brebis laitières, avec la viande?
Pire dans quel sens?
Le rapport non seulement au travail, mais surtout à la bête et tout ce que vous décrivez. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on fait vivre aussi bien aux éleveurs qu'aux animaux est pire dans les élevages de brebis laitières ou dans les élevages de brebis qui vont donner des agneaux ensuite.
Ah oui, pour le coup, j'ai pas, pour être tout à fait honnête, hein, j'ai pas tout à fait travaillé sur l'élevage de brebis. Là où effectivement les curseurs sont poussés à bloc, c'est dans l'élevage de volailles et dans l'élevage de porcs, hein, où on est vraiment dans quasiment. Il y a beaucoup d'intensifs. Et si on prend vraiment les mesures, si on parle de souffrance animale, ce qui n'est pas vraiment l'objet de mon livre, mais forcément on en parle, c'est dans l'élevage de poulets que les curseurs sont mis au maximum. Vraiment, ce sont des vies qui durent une trentaine de jours. Elles passent de 0 à 2 kilos. C'est vraiment beaucoup de souffrance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la souffrance humaine. Et lorsque ce sont les éleveurs qui dénoncent la souffrance animale, je trouve que c'est là où c'est le plus pertinent.
Ah, c'est exactement ce que fait Elsa Sagnal, qui d'ailleurs veut intervenir, Elsa Sagnal.
Oui, je voulais juste apporter un petit élément de précision sur qu'est-ce qui est plus dur en élevage laitier ou en élevage allaitant, comme on dit. C'est sûr qu'en élevage laitier, il y a une charge de travail supérieure du fait de la contrainte de la traite qu'on n'a pas dans la production de viande. Et puis, il y a cette question des jeunes, puisque donc les mères vont faire des agneaux ou des chevreaux ou des veaux pour pouvoir ensuite déclencher la lactation. Sauf que ces jeunes ne sont pas destinés à être engraissés sur la ferme, parce que sinon ils vont consommer du lait dont l'éleveur a besoin pour son revenu. Et donc ces animaux-là qui vont être très, très tôt séparés de leur mère et puis engraissés ailleurs. Et c'est là où il y a peut-être aussi une difficulté pour les éleveurs à voir partir ces jeunes et ne pas pouvoir en profiter sur la ferme.
Ulysse ?
Oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser à Delphine, qui était une éleveuse de chèvres. Elle me disait que les chevreaux mâles sont des sortes de sous-produits qui lui étaient achetés entre 50 centimes et 1 euro. Donc, c'est la valeur d'une vie, c'est quand même fou. Moi, je suis tombé de ma chaise en apprenant ça. Et puis, c'est moins que le coût qu'il faut pour les nourrir. Et donc, dans certains élevages, notamment les gros élevages, il y a des rapports du ministère de l'Agriculture qui disent qu'il y a une sorte de silence sur des euthanasies illégales. C'est-à-dire que dans certains gros élevages, eh bien, on les tue, ces petits chevreaux, parce que ils ont tellement pas de valeur. Les éleveurs sont déjà dans une situation financière si complexe qu'ils en arrivent là. C'est aussi quelque chose qu'on a pu voir à une certaine époque avec les veaux des élevages laitiers. J'ai une facture que je révèle dans mon livre où il est écrit « Veau sans valeur, 0 euro ». C'était assez choquant de découvrir ça. Et effectivement, de voir que notre système est arrivé à ce point où des vies sont considérées comme des sous-vies, des sous-produits qui n'ont une valeur proche de la nullité, c'est assez choquant, je pense. Je pense que ça peut indigner tout le monde, pour le coup.
Et le sens de l'élevage, vous le dites bien, vous l'écrivez bien en tout cas, Elsa Sagnal, dans votre livre « Élevé », c'est évidemment un sens aussi de rapport à l'animalité, aux bêtes que vous élevez avant d'être de la viande. Ce sont des animaux vivants.
Assassine. C'est ce que nous lisons dans vos yeux quand vous nous demandez ce qui nous occupe. Vous trouvez qu'éleveuse, c'est pittoresque. Vous voulez savoir si nous faisons du fromage. J'imagine que vous aviez vu en nous une carte postale fermière, fille frêle, tannée par le soleil. Souvent, vous pensez que nos brebis sont des chèvres laitières, ça nous irait beaucoup mieux. Non, brebis allaitantes, ovins-viande, agneaux morts, quoi. Silence, gêne, et fin de la conversation. Avez-vous le temps pour que nous vous expliquions la place de la souffrance dans certaines productions laitières ? Les agneaux et les chevreaux, parfois assommés à la naissance, souvent séparés de leur mère très tôt, les bêtes épuisées par la ponction de la traite, les mamelles distendues et infectées. Avez-vous le temps pour que nous vous expliquions la place de la vie dans notre production de viande, les soins portés aux agneaux dès les premières heures et toute leur vie, les mères et leurs petits vivant ensemble au pâturage, le répit des mères entre le sevrage et la lutte.
Un deuxième extrait de votre ouvrage « Élevé, Elsa Sagnal ». Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a un peu de temps pour que vous nous expliquiez la place de la vie et de la mort dans votre métier. Élever, c'est aider des bêtes à vivre, mais c'est aussi, dites-vous, donner la mort et l'accepter.
Tout à fait. En fait, c'est un peu le paradoxe entre la production de lait et la production de viande. On a l'impression, dès qu'on mentionne la production de viande, on pense tout de suite à quelque chose de sanguinolent, à la mort, alors que le cœur de notre métier, ce à quoi on passe le plus de temps et de soins et d'énergie, c'est de préserver à tout prix la vie et la vie en bonne santé dans un environnement digne. Donc, au quotidien, on n'est pas dans, dans la mort et la viande. Par contre, cette mort, elle fait partie de notre métier de plein de facettes différentes. Elle peut être programmée, prévue, décidée lorsqu'on amène des agneaux à l'abattoir. Et ça, c'est quelque chose à quoi on se prépare dès la naissance de l'agneau, notamment les agneaux mâles, dont on sait qu'on va pas les garder. Et finalement, cette mort-là, elle nous est difficile, mais on sait mieux la gérer que des morts accidentelles auxquelles on est confronté aussi, parfois de brebis qui nous accompagnent depuis des années, auxquelles on a donné un nom, auxquelles on est attaché. Parfois, on faillit à les soigner, donc on se sent responsable de cette mort. Et finalement, c'est cette mort-là qui est beaucoup plus invisibilisée dans la société et qui, pour nous, est peut-être plus difficile à gérer.
Mais pourquoi êtes-vous obligé de vous sentir capable, comme vous l'écrivez, de la tuer, la bête, après l'avoir élevée? Comment on fait quand on est si attaché aux bêtes pour les mettre à mort? C'est peut-être plus difficile dans votre cas, qui avait peu de d'animaux et à qui, effectivement, vous donnez des prénoms à chacune, etc., que dans le cas des enquêtes, de l'enquête du Listévenot, où finalement, c'est des énormes bétails, des énormes élevages, ouais, et ils disparaissent, quoi.
Voilà, et déjà, on a presque pas le temps de leur donner de nom, hein, ils restent là un mois. Et puis, il y en a tellement, un élevage de poulets, ça peut être rapidement des dizaines de milliers. Donc, c'est vraiment pas dans ces élevages-là qu'on va leur donner des noms, évidemment.
Alors que vous, Elsa Sagnal, vous les accompagnez à l'abattoir vous-même.
Mais juste pour rebondir là-dessus, je pense que, effectivement, en volaille, c'est pas valable, mais sur des mammifères, on arrive beaucoup plus à se projeter, à faire de l'anthropomorphisme. Et je pense que même dans les élevages industriels, les éleveurs qui font ce métier, parce qu'à la base, ils aiment être au contact des animaux, sont quand même touchés par ce qui arrive à leurs bêtes, et c'est pour ça que ça crée énormément de détresse dans l'élevage. Et ensuite, pour vous répondre, oui, donc nous, on choisit de conduire nos animaux à l'abattoir, donc ils ne quittent jamais notre ferme, à part le moment où ils vont à l'abattoir. Il y a aussi d'autres systèmes où les animaux sont élevés dehors, comme chez nous, mais ensuite sont vendus à des marchands et partent en centre d'engraissement quelques semaines avant d'être abattus. Donc nous, on essaye de les garder chez nous pour être sûr des conditions dans lesquelles ils vivent. Mais il faut pas se mentir non plus. On n'est pas du tout satisfait lorsqu'on arrive à la porte de l'abattoir. C'est comme une boîte noire pour nous. On sait plus ce qui arrive à nos animaux à l'intérieur. On sait qu'ils vont mourir, qu'on va récupérer de la viande à la sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on assume. Mais par contre, la façon dont ils vont être tués, les conditions de travail aussi pour le personnel qui travaille à l'abattoir, c'est pas quelque chose qui nous satisfait. Donc il y a aussi dans l'élevage paysan plein de choses à améliorer et aller sur des choses plus proches de l'abattage à la ferme ou d'abattoir mobile. On n'est pas complètement satisfait de ce qu'on fait.
Ulysse Thévenon, quand vous entendez encore une fois ce que dit Elsa Sagnal par rapport à toutes ces femmes et tous ces hommes que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ?
Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est par rapport au discours médiatique qu'on entend beaucoup, et c'est ce qui a motivé mon enquête. On parle souvent de choses qui sont extrêmement éloignées des éleveurs pour justifier la détresse agricole. On va parler, par exemple, du Mercosur. On va parler de ce qui se passe à Bruxelles, les normes européennes. On va parler des centrales d'achat des supermarchés qui sont à l'étranger. Sauf que moi, j'ai découvert que c'est déjà seulement à quelques kilomètres des fermes qu'on trouve les premières pratiques très problématiques. Tout ce que je viens de citer, plutôt, ça ne concerne pas forcément tous les éleveurs. Mais tous les éleveurs ont affaire à un abattoir, ont affaire à une banque. Beaucoup d'entre eux ont affaire à une coopérative ou à un industriel, quel qu'il soit, ou même un centre de gestion. Et rien que dans ces acteurs qui sont parfois presque aux portes des fermes, il y a déjà des pratiques très problématiques. Et donc le sens de mon enquête était un peu de remettre aussi l'église au milieu du village et de pas forcément agiter des menaces qui sont extrêmement lointaines pour justifier une colère agricole un petit peu floue, comme un magma qu'on saurait pas vraiment définir. Moi, j'ai découvert dans cette enquête qu'on pouvait chiffrer, nommer précisément, documents à l'appui, des entreprises françaises qui sont proches des éleveurs et qui pourtant, eh bien, les exploitent et parfois même les méprisent via des pratiques très problématiques.
Thank you. dans la source qui reprend, la peine du transport des tonnes à eau économisées. Dans le gigot apprécié, notre travail condensé. Dans les râteliers vidés, sans refus au petit matin, le sentiment que le foin est de qualité pour la gestation. Dans la journée qui finit tard, l'occasion d'une marche nocturne à la lumière de la lune. Dans les chiens à sortir, la joie facilement procurée. Dans les places choisies par le troupeau à la chaume, les affinités. Dans le silence des brebis, la récompense d'un troupeau apaisé.
Dans le gigot apprécié, notre travail condensé, c'est la troisième et dernière lecture de ce livre Élevé, Elsa Sagnal. Restez bien entendu avec nous pour écouter désormais à 12h26 sur France Culture, le dialogue des cuisines, Maurice Acco. Maury, un gigot apprécié, vous aussi?
Ouais, toujours une bonne idée le gigot. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir le dibi sogo. Donc en langue bambara, dibi veut dire grillé et sogo viande. Le dibi, c'est une grillade qui est faite à base de viande d'agneau, mouton ou brebis, ultra populaire en Afrique subsaharienne. On la retrouve surtout en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali, où elle est originaire. Par ailleurs, dans toute l'Afrique, les échoppes de dibi sont généralement tenues par des Maliens. Pays où le dibi est une véritable icône de la cuisine de rue. On en mange à toute heure dans des lieux nommés des dibiteries. On y retrouve deux versions. La classique, où la viande est assaisonnée juste de sel et poivre, puis lentement grillée au feu de bois, un peu comme un poulet boucané. Et le dibi haoussa, qui est une variante que l'on retrouve parfois sous la forme de brochette, contenant un mélange d'épices composé d'arachide, poivre, gingembre, paprika et de rondelles. Une épice qui a un goût un peu proche de l'ail. Le dibi a même son festival, organisé chaque année à Bamako. C'est une véritable fête à tous les niveaux. On y retrouve des rôtisseurs venus de loin pour proposer toutes sortes de grillades, partant de simples brochettes jusqu'aux recettes les plus extravagantes, comme le chameau entier à la broche. Je vais maintenant vous expliquer comment faire un dibi sans barbecue à la maison. Tout d'abord, prenez des côtelettes d'agneau et demandez à votre boucher de les couper en deux, tout en gardant l'os. Car dans le dibi, il faut de la viande et de l'os. Prenez ensuite vos morceaux de viande et les faire mariner dans le mélange de sel, poivre et moutarde. Puis ajoutez quelques oignons émincés. Laissez mariner environ 2 heures. Et une fois mariné, cuire votre viande en papillote à 160 degrés pendant 20 minutes. Égouttez légèrement votre viande après cuisson, puis disposez sur une plaque et cuire votre viande au four en mode grill à 200 degrés pendant 5 minutes. Éteignez le four, puis brûlez un bouquet de thym bien sec et le déposez dans le four, puis refermez la porte. Cela permettra de fumer votre viande et de reproduire le goût de la cuisson au feu de bois. Vous pouvez l'accompagner de sauce verte, une mayonnaise dans laquelle on vient ajouter du piment, des herbes et de l'ail haché. Avec cette recette, vous allez simplement voyager en Afrique de l'Ouest. Merci et bon dimanche.
Merci Maurice Acco. Et un grand merci à Elsa Sagnal. Élevé, c'est son livre paru aux éditions Saüs. Un grand merci Ulysse Thévenon. Le sens du bétail, vous ne mangerez plus jamais de la même façon. Alors moi j'ai un peu envie de conseiller aux auditeurs de commencer par Le sens du bétail qui se lit comme un thriller, mais on a besoin de retrouver un peu de souffle parce que c'est une enquête absolument magistrale mais qui fait un peu mal par où elle passe. Donc après, on va lire Élevé. Elsa Sagnal, Ulysse Thévenon quand même, c'est chez Flammarion votre
merci
enquête.
Beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin, à qui l'on doit les belles lectures, à Jean-Christophe Francis, à qui l'on doit la belle réalisation. À la technique aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.